Bonsoir. La veille du 7e sommet extraordinaire de Kampala sur la situation dans le Kivu, le gouverneur du Nord Kivu déclare que ce sommet doit obliger le M23 à déposer les armes et libérer l'espace qu'il occupe. Pour lui, chaque fois que le sommet demande au M23 et au gouvernement de garder leur position, cela est perçu dans l'opinion comme une balkanisation de fait. Comment analyser cette déclaration? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 4 septembre 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Bonsoir honorable Mouaka.
Bonsoir madame.
Et Samuel Munga, analyste en questions internationales. Il s'intéresse aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Monsieur Munga, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Bernard Djouna de Kindu dans la province du Maniema. Je pense que le gouverneur Paluku a raison car il n'est plus question de négocier avec les M23 qui est une fabrication du Rwanda. S'il faut trouver une solution politique comme le préconise Mary Robinson, c'est avec le Rwanda mais pas avec le M23. Emile Mouka dit depuis Kasumbalesa au Katanga, je pense qu'il y a eu d'autres sommets de ce genre, demandant toujours aux belligérants de déposer les armes, quelle que soit la suite de cette nouvelle rencontre. Je pense que c'est la RDC en tant que pays souverain de lutter pour son intégrité territoriale. Il ne faut pas toujours se distraire dans des sommets en sommets qui n'aboutissent presque à rien. Il conclut en disant, il faut se battre pour la paix et non pas demander la paix. Merci de nous suivre à Rutshuru dans la province du Nord Kivu sous la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiokati.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiokapi.net.
Ouverture ce jeudi à Kampala du 7e sommet extraordinaire sur la situation dans le Kivu. Et ce sommet doit obliger les M23 à déposer les armes et libérer l'espace qu'il occupe. Voilà ce que la population du Nord Kivu attend de ce 7e sommet des chefs d'État et des ministres de la Défense des pays membres de la CIRGL. Julien Paluku l'a en tout cas déclaré hier mardi à Radio Kapi. Pour lui, chaque fois que le sommet des chefs d'État demande au M23 au gouvernement de garder leur position, cela est perçu dans l'opinion comme une balkanisation, Julien Paluku promet de transmettre ses vœux de la population à la hiérarchie du pays. Il est dit au micro de Sifa Maguru.
Ce qu'on ne veut pas entendre à Goma, c'est une question de cesser le feu. C'est une question d'arrêt des hostilités. Je crois que nous allons devoir porter cette voix à la haute hiérarchie parce que nous avons vu par le temps passé comment, à chaque fois qu'il y a des sommets des chefs d'État, on demande soit au M23, soit au gouvernement, chacun de garder les positions qu'il détient. Donc, je crois qu'il n'appartient plus aujourd'hui dans un sommet des chefs d'État soit-il, de consacrer une balkanisation de fait en demandant à ce que le gouvernement laisse au M23 un territoire donné. Nous devons nous rassurer que le sommet de Kampala va obliger le M23 à déposer les armes, à libérer l'espace qu'il occupe pour essayer un peu de permettre de subvenir aux souffrances. Parce qu'on ne doit pas faire comme si on a plus pitié du M23 alors qu'on devrait avoir plutôt pitié des populations qui souffrent dans les camps de déplacés, dans les camps de réfugiés à l'extérieur, pour qu'on soit normalement en phase avec la volonté de la population du Nord Kivu.
C'était là Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, avant d'entrer dans le vif de notre débat, brièvement, comment se présente la situation sécuritaire en ce moment dans le Nord Kivu?
Oui, la situation, madame, est calme. Je voudrais d'abord commencer par saluer le professeur Arsène Mouaka ainsi que Samuel Munga. Présentement, après la défaite cuisante des éléments du M23 sur la colline appelée communément Trois Antennes, la situation est calme, même si à la frontière entre le Rwanda et la RDC, il y avait un déploiement des unités de l'armée rwandaise et des différents engins qui pouvaient dénoter d'une guerre possible entre les deux États. Mais nous pensons que avec le sommet qui s'organise, la tension est en train de baisser. La ville de Goma, les gens circulent normalement. Ils sont en train de se réjouir de la manière dont les forces armées appuyées par la brigade de la MONUSCO ont pu évacuer les dangers. Et aujourd'hui, on est hors de stress à l'heure où je vous parle.
Alors, Monsieur le Gouverneur, à la veille du 7e sommet des chefs d'État à Kampala, vous demandez à ce sommet d'obliger les M23 à déposer les armes et libérer l'espace qu'ils occupent. On ne vous avait jamais entendu parler sur ces temps. Qu'est-ce qui motive cette déclaration, Monsieur le Gouverneur?
Merci madame. Vous savez que moi je vis quotidiennement les atrocités que subit la population du Nord Kivu. Il y a plusieurs raisons qui font de ma conviction. La première madame, c'est que les enfants du Nord Kivu ont le droit de mener une vie tout autre, différente de stress, de traumatisme, de prise d'otages, d'extorsion, de torture morale, que sais-je encore. Toutes ces choses doivent cesser parce que nous avons aujourd'hui presque 1 million de déplacés en interne. Des gens qui sont déplacés de chez eux, mais qui sont obligés de vivre presque dans des conditions animales. La deuxième raison, madame, c'est que le Nord Kivu n'est pas fait rien que pour enterrer les morts et compter les femmes violées, parce que certaines personnes se sont même permis de dire que nous sommes la capitale mondiale du viol. Toutes ces injures doivent cesser. La troisième raison, madame, c'est que c'est l'ONU, c'est l'Union européenne, c'est l'Union africaine, c'est la SADC, c'est la CIRGL qui avait qualifié les M23 de forces négatives, au même titre que la LRA, que les FDLR, que les EDF Nalu, que l'Al-Qaïda. Et donc je considère qu'aujourd'hui, au-delà de ces qualificatifs-là, on doit ajouter aux M23 les qualificatifs des mouvements terroristes au regard de ce qui a été fait récemment. La quatrième raison, madame, c'est le danger de balkanisation. Moi, j'ai souvent suivi dans les médias à Kinshasa, les gens dire « ne touche pas à mon 220 », hein, faisant allusion, je crois, à la révision constitutionnelle. Je pense aujourd'hui que ce qui est grave, c'est plutôt la menace qui pèse sur notre pays. Il faut plutôt développer des slogans du genre « ne touche pas à mes 2 345 409 km². Voilà des choses qui font de ma conviction. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous qui recevons des personnalités, nous nous rendons compte que dans les discours qui filtrent dans les audiences, c'est du genre ancienne Yougoslavie, Soudan, Irlande du Nord, et nous pensons que si nous ne faisons pas attention, effectivement, nous risquons de tomber dans un vaste complot contre la République, ce qui justifie même qu'aujourd'hui, on est au 7e sommet des 11 chefs d'État sans qu'une réponse soit trouvée par rapport à une crise d'une force négative qualifiée par toutes les organisations internationales. Voilà qui fonde ma conviction que nous devons arrêter ces choses et passer à d'autres discours du genre comment penser le développement de Nord Kivu, comment relancer l'économie, comment ressusciter l'élevage. Ce sont ces discours que nous voulons et non pas ceux du genre combien de morts nous avons eu, combien de femmes violées.
Mais Monsieur le Gouverneur, l'opposition avait dénoncé ce danger des balkanisations depuis le début de cette guerre. Est-ce que ça veut dire que vous épousez aujourd'hui le point de vue de l'opposition congolaise?
Lorsqu'on examine les questions qui touchent à l'intégrité du territoire, on ne peut plus parler en termes d'opposition et de majorité au pouvoir. Parce que si un seul centimètre de notre pays est pris par les agresseurs, ce n'est ni l'opposition, ni la majorité qui en seront ou bénéficiaires ou qui s'occuperont des gaillardis. C'est la nation congolaise qui va en souffrir. Donc moi je pense que le peuple congolais, particulièrement la population du Nord Kivu, a tellement souffert qu'aujourd'hui, on ne peut plus tolérer qu'un groupe armé aussi qualifié de force négative continue à rouler tout le monde dans la boue, ramener sur la table des discours du genre, il n'y a pas de gouvernance, il y a de corruption, que des gens qui n'ont aucune leçon à donner à la République constituent des références pour nous amener tout le temps dans des réunions. Je crois que c'est inacceptable et aujourd'hui, nous attendons que Kampala définisse un schéma clair par rapport à ces mouvements qui doit être dissous, qui doit disparaître. Et les Nations Unies ont fait voter une résolution 2098 pour qu'on vienne neutraliser LM23 et toutes les forces négatives de manière à nous permettre, nous, peuple congolais, de vaquer à d'autres choses que de pleurer nos morts chaque jour.
Alors, Monsieur le Gouverneur, vous pensez que votre demande sera prise en compte?
Je pense que les chefs d'État ne peuvent pas se retrouver aussi cette fois et ne pas trouver des solutions à un problème aussi simple comme celui du M23. À moins qu'il y ait un complot ourdi contre la République, ourdi contre le président de la République, ourdi contre finalement tout le monde. Je crois que les chefs d'État eux-mêmes, lorsqu'ils vont avoir ce cri de cœur de la population de Nord Kivu, vont en fait se retrouver en train d'être coincés par une population qui est victime de toutes ces atrocités et qui voudrait voir des solutions trouver immédiatement. On ne peut pas continuer à avoir de grandes personnalités se réunir 7 fois pendant 8 mois ou pendant 9 mois et qu'une solution ne vient pas de ce sommet-là. Je crois que ce serait le cri de quelqu'un que j'ai traduit en tant que gouverneur. C'est la sommation des dialogues sociaux que j'ai organisé qui m'a permis aujourd'hui de sortir de la population du Nord Kivu qui souffre.
Merci, monsieur le gouverneur. Professeur Arsène Mouaka, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFM. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration du gouverneur de la province du Nord Kivu?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord saluer le gouverneur Julien Paluku et saluer mon frère Monga. Je suis très content de le suivre aujourd'hui, puisqu'il dit ce que la population dit. Et il dit tel que la population le dit. Et donc, je semble croire que si nous le disions, nous tous, comme cela, et que nous le pratiquions, et donc nous aurons la paix, ce serait pour demain. Et donc, je semble croire que sur le plan du discours, il a dit à haute voix ce que la population dit à Goma, à Kinshasa, à Kisangani, à Bukavu, à Beni, partout dans la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que ce n'est ni un vocabulaire, ni un ensemble de mots qui vont nous amener la paix. Ce qui va nous amener la paix, c'est que nos militaires avancent à communion avec la population, puisque la population à Goma est en avance. Elle est en avance tant sur le plan de l'analyse que sur le plan de l'action. La population agit avec son armée. Elle avance avec son armée. Et donc, je semble croire que ce qui manque, c'est une détermination, ce qu'on appelle généralement la volonté politique. Et donc, cette volonté politique consiste non pas à faire de la spéculation, mais cette volonté politique consiste à prendre des décisions, telles que, par exemple, activer des mécanismes constitutionnels qui consistent à dire que le pays est menacé, et qu'il faut, par exemple, signer une ordonnance pour dire que nous sommes en guerre, consulter le Parlement à cet effet. Et donc, je semble croire que maintenant, cette volonté, ça se traduit par des actions concrètes, et c'est ce qui manque. Mais sinon, tous les ingrédients sont là, une armée qui se réorganise, une population qui est réellement en harmonie avec son armée, et des autorités qui sont réellement sensibilisées. Je crois que le gouverneur en fait la preuve. Et maintenant, nous attendons que des actions concrètes suivent. Sinon, le sommet de Kampala, c'est un sommet de la CIRGEL, c'est un sommet normal. On va faire des communiqués, c'est comme ça qu'un sommet se termine et ça ne nous amènera pas à la paix.
Alors, il y a des auditeurs qui estiment que c'est un sommet de trop, qui n'apportera pas grand-chose de concret par rapport à ce qui se passe au Nord Kivu.
Je semble croire qu'un sommet, c'est normal, des chefs d'État qui se rencontrent, qui discutent, qui échangent, c'est normal. Ça rentre dans l'ordre normal de choses. On doit leur permettre de faire ça, mais tout à l'heure rappelant que la Constitution leur demande un certain nombre de petites choses qui doivent être faites, et tout à rappelant aussi à ceux qui ont l'impérium aujourd'hui dans ces pays d'agir dans le sens de la volonté de l'opinion publique, qui est très pressante. Il y a une exaspération du côté de la population, puisqu'on a comme l'impression que d'ici quelques jours, nous aurons la paix. Et il manque juste un petit geste et tout de suite, nous avons la paix.
Alors, il y a cet auditeur qui nous écrit des Lyon, en France. Il s'appelle Moïse Pala, qui a beau et dit ceci, en effet, la réunion extraordinaire des chefs d'État de la sous-région n'arrivera pas à cette fin, car dans la géostratégie mondiale, la situation de la sous-région doit rester sans issue en vue de profiter, alimenter leurs intérêts que la sous-région regorge pour subvenir aux multinationaux. Nous saluons le courage de monsieur Julien Paluku, mais il n'est pas la bouche autorisée, donc c'est prêcher dans les déserts. Vous pensez qu'il
a prêché dans les déserts? Non, on ne reprochera pas à un gouverneur d'avoir dit ce que passe sa population. Et je voudrais demander à l'auditeur de se rendre à Goma et de circuler dans les rues et attendre ce que la population dit. Et donc, je semble croire
que... C'est depuis longtemps que la population dénonce cette situation.
Madame, c'est plus fort maintenant. C'est plus fort maintenant. Je crois qu'à travers toute la République, tout le monde sait que nous voulons arriver à quelque chose. Et on ne peut pas refuser à des chefs d'État de se réunir, surtout que nous y avons des amis. Nous y avons par exemple la Tanzanie qui est avec nous. Pourquoi on doit s'inquiéter quand ils se réunissent? Ils doivent se réunir, mais on ne doit pas nous dire que c'est de là que nous aurons la paix, puisque nous aurons la paix à Kibumba. Nous devons libérer Kibumba, nous devons libérer Rubare, Rugari, Ruchuru Centre, Kiwanja, Bunagana, ainsi de suite. C'est là que nous aurons la paix.
Et donc, mais ça commence par des écrits, il y a des recommandations, et il faut les appliquer pour avoir la paix.
Je doute très fortement, puisque nous avons des tonnes et des tonnes de papier et de l'encre de pensée. Et je semble croire que si on devait quantifier tout cela, ce serait une grosse perte. Mais je semble croire que ce qui n'a pas été fait a été essayé, puisque maintenant, plus que jamais, nous avons une opportunité, toute la communauté internationale avec nous, et même des forces étrangères avec nous, et nous-mêmes très sérieux avec nous-mêmes. Et donc, je semble croire que nous ne devons que nous y aller jusqu'au bout.
Alors, on va prendre pour vous, professeur Arsène Maka, cette réaction qui nous vient de Kindu Maniema.
Jean-Claude Tambo est à partir de Kindu. La conférence ne nous apportera rien. Moi, je pense que comme on avait dit qu'il faut passer par l'option politique avait échoué, l'option diplomatique a échoué. Alors, je voudrais bien que l'option militaire soit acceptée et soit aussi adoptée par le gouvernement pour que nous puissions mettre l'ennemi en dehors de notre territoire. Moi, je pense que si la conférence va arrêter une décision à dire que chaque parti reste dans les positions initiales, je trouve que autant mieux aider ces rebelles par leur donner les armes et les munitions au lieu de demander aux Congolais d'arrêter la progression. Moi, je pense que l'option qui doit être adoptée pour le moment, c'est l'option militaire.
Réaction?
Bon, je crois que l'accord d'Addis Abeba tranche et nous montre la voie. Et la dernière résolution des Nations Unies nous montre ce qu'il faut faire. Et donc l'option est levée, elle est militaire, mais nous n'allons pas reprocher au gouvernement d'accompagner ça par la politique et la diplomatie. Ce qu'on reproche au gouvernement, c'est
de
dire...
À quoi ça sert d'accompagner par la politique et la diplomatie, puisque ça montrait ces deux options montraient leurs limites?
Madame, je suis très convaincu que si nous gagnons militairement le M23 et qu'il sera dans les parcs comme le FDLR, je suis convaincu qu'à la fin, il faut parler avec le M23 pour que ça se termine. Et donc, frapper n'exclut pas parler. Mais on ne peut pas nous distraire pour dire qu'au même moment qu'on frappe, on parle. Ça, c'est une distraction et c'est prolonger la misère de la population. Mais je semble croire qu'après avoir frappé, on peut parler. Et c'est ça la demande de la population. La population voudrait qu'on en finisse d'abord, qu'on libère nos frères qui sont à Kibumba, qui souffrent, qui sont traqués tous les jours, qu'on libère ceux qui sont à Rutshuru dont le barrage est détruit, qu'on puisse libérer tous ces frères qui sont là, et après on peut dialoguer avec ces autres frères qui se sont égarés, s'il y en a évidemment.
Merci professeur Arsène Maka. Samuel Munga, je rappelle que vous êtes analyste en questions internationales. Vous vous intéressez aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Comment vous analysez cette déclaration du gouverneur de la province du Nord Kivu?
Merci madame. D'abord, merci pour l'invitation. Permettez-moi aussi de réciproquer mes salutations à monsieur le gouverneur Paluku ainsi qu'au professeur Mwaka. J'ai suivi attentivement leurs deux interventions. Évidemment, de par leur position, l'un étant le gouverneur de la province, cible, si je peux m'exprimer ainsi, et l'honorable qui est dans son fief électoral, donc il me fallait être particulièrement attentif. Ce qui est vrai, et je note d'entrée de jeu, d'abord le rôle de l'opinion nationale. On a souvent l'impression, on a souvent tendance de caricaturer un peu l'opinion nationale en Afrique, hein. On entend ça souvent de manière mécanique, le poids de l'opinion nationale qui ne compte pas vraiment, mais on a quand même l'impression qu'en RDC, dès lors qu'il est question de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale, eh bien, l'opinion nationale congolaise se montre particulièrement frileuse, particulièrement attentive. Et moi, je pense que avec les efforts diplomatiques qui ont été déployés, il faut ajouter un levier important qui a été cette opinion nationale. Et sans doute, avec le temps, on pourra lui reconnaître sa juste valeur, sa juste contribution, hein, dans les progrès que nous avons pu obtenir, notamment sur le plan des grandes résolutions des Nations Unies qui concernent notre pays. C'est vrai que dès qu'on parle de pourparlers ou de sommets comme celui-là, on ne peut pas ignorer le terrain. Et une chose est certaine, sur terrain, il semble que le M23 n'a plus le même profil qu'il y a plusieurs mois. Les choses se sont un peu améliorée, dans le sens où, suite à la résolution 2098 du Conseil de sécurité, et bien sûr dans le contexte de l'accord cadre d'Addis Abeba, eh bien, une brigade d'intervention a été mise en place. Et cette brigade, conjuguée à une armée congolaise regaillardie, a mis le M23 dans une position beaucoup plus délicate. Sans doute, le M23 se trouve dans une position où il devrait avoir une oreille plus ouverte à un dialogue, si on parle de dialogue, en tout cas à des négociations. Cela étant, il me semble que deux pressions devraient être conservées. La première, c'est de maintenir l'esprit de la résolution 2098 en œuvrant dans l'objectif principal de cette résolution, qui est l'éradication de ces forces négatives. Et cela implique, et je pense qu'une partie de la population congolaise souhaite très sincèrement que la brigade d'intervention ne soit pas simplement réactive, mais qu'elle soit réellement proactive, qu'elle en d'autres termes, il faut les dénicher, il faut vraiment éradiquer ces forces négatives.
Alors vous parlez d'une certaine amélioration sur les terrains. Est-ce que ça veut dire que on tend vers la fin de cette guerre dans le Nord Kivu?
Bon, vous savez, le M23 en tant que mouvement, groupe armé, a souvent oscillé entre deux visages. Tantôt c'est vraiment un groupe armé, on le sait que c'est un groupe armé, tantôt aussi jouant la carte beaucoup plus politique. Je m'imagine que un peu dos au mur, sous la pression notamment des FARDC, hein, conjugués à la brigade d'intervention, eh bien, très naturellement, le dialogue devrait, ou les négociations devraient connaître un autre type de tournure. La deuxième de choses qui me paraît importante, c'est que au-delà de cette forme de recomposition stratégique, il est important sur le plan diplomatique que dans la sous-région, une véritable dynamique de clarté, de sincérité s'installe par rapport notamment au Rwanda. J'ai suivi Mary Robinson avec une attention particulière. L'ONU s'est exprimée, le gouvernement congolais a toujours dit très très haut ce qu'il pensait par rapport à ça. Et je sais aussi que certains pays, je pense par exemple à la Tanzanie, par l'entremise de son chef de l'État, le président Kikwete, eh bien, on semble-t-il entrepris la direction de pointer clairement le Rwanda. Et peut-être qu'une...
Mais malgré ça, on a l'impression que le M23 a un soutien renouvelé du Rwanda par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, par rapport je dirais pas défaite totalement, mais on a l'impression que le Rwanda a renouvelé son soutien à ce groupe armé.
Renouvelé, je ne pense pas. Le M23, c'est un groupe rebelle, et en tant que tel, il ne peut pas évoluer sans base arrière, longuement. Et on sait très bien, c'est un secret de polichinelle, que le Rwanda a toujours constitué sa base arrière. Je crois qu'il faudrait plutôt parler d'un soutien maintenu et de plus en plus visible. Voilà.
Merci Samuel Munga. Monsieur le gouverneur, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani, dans la province orientale.
Moi, c'est Petit Lichundi Butomoito, depuis Kisangani, en province orientale. C'est comme si le gouverneur fait semblant de connaître la réalité du combat du M23 dans sa province. Et croyez-vous vraiment que les décisions de ce sommet, qui n'est pas aussi la première, fera que le M23 puisse libérer les zones qu'il occupe? Il faut savoir que toutes les décisions prises par les pays de la CIRGL pour la RDC n'aura aucun impact tant que les réunions se tiennent toujours à Kampala et la structure dirigée toujours par le président ougandais. Pour moi, ce sommet est moins important pour les Congolais.
Monsieur le gouverneur, réaction.
Oui, on comprend effectivement la situation du peuple congolais par rapport aux souffrances de leurs compatriotes qui sont ici. Tout ce qu'ils appellent d'ailleurs, je crois qu'ils ont des faits au Nord Kivu, et ils comprennent que c'est pas facile de vivre ici toutes ces atrocités, surtout nous qui, en même temps que nous débattons d'une question, nous sommes aussi à côté du Rwanda, c'est à quelques mètres de là où nous parlons. Donc vous comprenez que cette question ici préoccupe au plus haut point que si je suis arrivé aujourd'hui à lever le ton et à parler de façon inhabituelle, c'est parce que effectivement.
Est-ce que c'est parce que vous avez eu la pression de la population?
Oui, allô?
C'est parce que vous avez eu la pression de la population?
Je pense que l'analyse, toute analyse faite, on sent quand même que les souffrances arrivent presque à leur comble. On ne doit pas continuer à regarder les gens à mourir comme ça. Quand on voit des bombes tomber dans une ville, tuer des innocentes gens, tuer des petites filles de 10 ans, parce que seulement il y a un mouvement rebelle qui est à quelques kilomètres de nous, je crois que nous devons lever le ton et dire ça doit cesser, ça doit finir. Et je crois que parmi les attentes de la population, c'est que demain, comme le M23 est affaibli aujourd'hui, qu'on sente que et les Nations Unies et les FARDC sont sur la route de Rutshuru pour évacuer d'abord les tronçons Rutshuru et les ramener dans leurs anciennes positions. Parce que vous savez, madame, de tous les sommets qui se sont déroulés, moi j'ai participé à tous les 6 autres. Et il y avait un des sommets qui avait disposé que le M23 doit rentrer dans ses positions d'avant le 30 juin 2012. Et avant le 30 juin 2012, le M23 était dans le triangle de Runyonyi, de Tianzu et de Mbuzi. Je crois qu'à l'heure qu'il est, on doit revenir sur cette disposition du sommet des chefs d'État pour qu'en attendant que l'on puisse éventuellement savoir ce qu'on en fera de ces Congolais-là parce qu'on ne va pas aussi les tuer, que tous ces gens évacuent la route principale, qu'on se rassure que l'autorité de l'État est rétablie sur l'ensemble du territoire de Rutshuru et qu'on examine, comme le professeur a dit, des mécanismes de réinsertion de ceux-là qui se sont égarés en se faisant recruter peut-être aveuglément dans ces mouvements-là. C'est cela, moi, la position que je défends aujourd'hui.
Merci, monsieur le gouverneur. Le M23, excusez-moi, le M23 doit cesser la violence et doit désarmer, comme demandé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Déclaration de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, Mary Robinson, est arrivée lundi à Goma à rencontrer le gouverneur du Nord Kivu, avec qui elle a échangé sur la crise qui sévit actuellement dans la province. Au sortir de l'audience, elle a par ailleurs déclaré qu'aux côtés de la réponse militaire, il faudrait une réponse politique pour résoudre cette crise. Mary Robinson a rappelé tous les signataires de l'accord cadre de mettre en œuvre les acquis de cet accord. Ses propos sont recueillis par Denise Lukeso.
Je comprends la frustration, mais aussi je sais que cette fois, on a vu qu'avec Force Brigade et MONUSCO, en soutien de FARDC, on a réussi à empêcher le M23. Maintenant, ils sont affaiblis. C'est clair que le M23 doit cesser cette violence, doit désarmer, comme le Conseil de sécurité a demandé, mais aussi, je crois qu'il y a une fenêtre de possibilités politiques maintenant. Vraiment, nous sommes très préoccupés, très engagés, et très déterminés de travailler avec le gouverneur, avec tout le monde, pour une paix durable. Il faut maintenant qu'on trouve un moyen. On a déjà essayé nécessairement avec une réponse militaire. Heureusement, ça a bien réussi. Maintenant, il y a une fenêtre aussi pour une réponse politique. Vraiment, je vous assure que moi-même, comme envoyé spécial, les Nations Unies, les autres, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, nous sommes ensemble engagés avec une solidarité énorme à ce moment.
Voilà, c'était Mary Robinson après son audience avec le gouverneur du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, vous avez reçu l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Grand Lac. Elle estime qu'aux côtés de la réponse militaire, il faudrait une réponse politique. Vous qui avez assisté à plusieurs sommets de la CIRGL, c'est quoi concrètement cette solution politique dont on parle souvent?
Oui, merci madame. Je suis heureux de recevoir de vous cette question, tout le monde se la pose. Moi, je voudrais un peu donner ma lecture de ce que l'on appelle solution politique. D'abord, cette lecture part des missions accordées à chacun. Vous savez que Mme Robinson est nommée pour assurer le suivi de l'accord cadre, un accord qui a été signé par 11 chefs d'État. Et je crois que la mission qu'il a, c'est pas de venir parler avec les groupes armés, ce n'est pas d'amener le gouvernement, un gouvernement congolais ou un gouvernement ougandais, de parler avec ces groupes armés, c'est de suivre la mise en œuvre de l'accord cadre. Parce que l'accord cadre trace les engagements au niveau de la région, les engagements au niveau des États, les engagements au niveau de la communauté internationale. Et Mme Robinson est là pour suivre si chaque État respecte les engagements tels que cela est contenu dans l'accord cadre. Mais on confond souvent le travail de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies avec le travail du représentant spécial qui est Martin Kobler. C'est lui qui, étant affecté ici dans ce pays, suit avec la République la manière dont les choses doivent se dérouler. Donc je crois que par solution politique, Madame Robinson veut dire que ce qui se passe à l'Est ne doit pas embraser l'ensemble de la région des Grands Lacs. Il faudrait qu'il parle régulièrement aux différents chefs d'État pour que certains qui semblent être impliqués dans les conflits congolais ne puissent pas provoquer effectivement que d'autres États entrent en jeu. Imaginez-vous par exemple que comme le Rwanda et l'Ouganda ont souvent été cités, qu'ils entrent en jeu et que la RDC cherche aussi d'autres États comme l'Angola, comme le Zimbabwe. Là on va revenir au schéma de la guerre de 98 où le pays était divisé en 3 ou 4 ou 5 parties. Il y avait un côté ici avec les RCD soutenu par le Rwanda, du côté MLC, RCD KMS était soutenu par l'Ouganda. Je crois que le rôle de Mary Robinson,
merci,
c'est d'éviter que ce genre de schéma n'arrive effectivement. C'est
merci
ça, je crois, la solution politique à la crise qui se passe à l'Est.
Merci.
Tandis que lorsqu'on parle des négociations avec les groupes armés,
Merci, monsieur le gouverneur. On va vous redonner la parole. Professeur Arsène Mouaka, comment vous réagissez à cette déclaration de Mary Robinson qui pense qu'il faudrait une réponse politique aux côtés de la réponse militaire? On a l'impression que la communauté internationale privilégie plus l'option politique. Hein.
Bon, je crois que la communauté internationale s'est déjà exprimée à travers la résolution 2098 et elle est claire. On doit éradiquer ces groupes, donc ça n'exclut pas au même moment qu'il y ait un processus politique. Mais moi, je suis convaincu que puisque nous parlons du concret, nous ne parlons pas de l'absurde, nous parlons de Kibumba, nous parlons de tous les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru. Je crois que si Mary Robinson vient ici pour la résolution 2098 et même l'accord cadre d'Addis Abeba, je semble croire qu'elle demandera qu'on libère ces deux territoires et que ce qu'elle appelle solution politique suive. Parce que je ne crois pas qu'on puisse dire un peu comme le gouvernement le disait avant, que l'M23 va s'autodissoudre, et ainsi de suite, sachant qu'il s'agit des militaires aguerris et autres, tout ça. Et donc, je sais que on doit les défaire militairement, et après, la fameuse solution politique peut venir.
Et mais qu'est-ce que vous entendez par cette fameuse solution politique?
La solution politique, c'est de les écouter. On doit les écouter. Il y en a qui sont dans
comme
cette aventure.
Comme ce qui s'est fait à Kampala?
Non, on doit venir le faire au Congo. On sait que dans cette aventure, il y en a qui sont embarqués sans vouloir y être. Il y a des éléments qui y sont malgré eux, qui sont pris en otage. Et donc, on leur demandera pourquoi ils s'y retrouvent. Ils diront, on nous a dit d'être dedans. Et on va leur demander, est-ce que vous pouvez quitter? Ils quitteront. Et on va prendre des dispositions. Et donc, c'est des schémas de ce genre qui viennent par la suite. S'il y en a qu'on devrait démobiliser, s'il y en a qui devront intégrer l'armée, ainsi de suite. Et donc, on verra par la suite.
Et donc, il faut un dialogue avec ce groupe armé au Congo.
Naturellement.
Pas en dehors du Congo.
Non, pas en dehors du Congo. On ne peut pas.
Et en dehors des concertations nationales.
Non, je crois que les concertations nationales, justement, c'est à ce point que le gouvernement est un peu à côté. D'autant plus que le gouvernement ne sait pas finalement ce qu'il cherche. Dans l'accord d'Addis Abeba, il est demandé au gouvernement de dialoguer. Et il doit dialoguer avec tout le monde. Et moi, je suis d'avis qu'on amène toutes ces forces-là ici. Pourquoi on préfère dialoguer avec le M23 toujours à l'écart? On finit la conférence de Goma, on part dialoguer avec le M23 au Kenya. Pourquoi ça doit être un petit groupe qui dialogue avec ce M23? Pourquoi? Je ne comprends pas. On doit les amener à Kinshasa. S'ils sont Congolais, ils parlent avec tous les Congolais. Pourquoi les mettre à l'écart? Je ne comprends pas pourquoi même le gouvernement écarte tous les groupes armés systématiquement. Mais ils doivent venir s'exprimer ici. C'est ici qu'ils doivent venir s'exprimer. Pourquoi le gouvernement a fait des petits dossiers à l'écart sous prétexte de chercher la cohésion et la paix? Est-ce qu'on peut chercher la paix sans parler avec les groupes armés qui sont au Nord Kivu? Je crois que les concertations actuelles sont un complot contre le Nord Kivu. On doit amener tous ceux qui troublent la paix au Nord Kivu pour qu'ils viennent s'exprimer ici à Kinshasa. Mais on les exclut systématiquement. On ramasse déjà ici à Kinshasa une vingtaine. et Odi, ce sont eux qui vont représenter les groupes armés, et on laisse ceux qui troublent l'ordre, au Nord Kivu, à Ituri, au Nord Katanga, et ainsi de suite. C'est anormal, qu'est-ce qu'on cherche?
Vous parlez des groupes armés qui se font et se défendent chaque jour. Comment on va arriver à faire venir tous ces groupes armés à ces concertations? Aujourd'hui, ils existent, demain, ils n'existent plus, le lendemain, ils réapparaissent.
Mais je crois que pour certains groupes, le gouvernement sait comment ils sont nés. Ces gens viendront parler ici, ils nous diront qu'il leur a demandé de se constituer. Ils diront.
Alors, il y a cet auditeur de données congolo de Kananga au Kasaï occidental qui dit ceci. Moi, je pense qu'il serait mieux de discuter avec les M23 qu'après avoir récupéré nos terres occupées par lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Le dialogue doit intervenir après avoir récupéré.
Naturellement, d'ailleurs, je crois que les concertations devaient venir après la libération de Nyiragongo et de Rutshuru. Les concertations qui veulent commencer ici sont mal placées. Je semble croire que ces concertations devaient venir après la libération, et l'auditeur de Kananga voit très bien ce qu'il faut.
Alors, Samuel Monga, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Je suis Charles Moutagoma depuis Bukavu au Sud-Kivu. Moi, j'ai l'impression que les rébellions ont toujours trouvé dans les négociations l'occasion d'être intégrées dans les institutions de la République. Rappelez-vous, on a déjà négocié à San City, à Goma, à Kampala et bientôt dans les concertations nationales. Mais les rébellions sont toujours légion dans le pays. On négociera combien de fois? Pensez-vous que les pays en paix sont ceux qui savent négocier? Non, ce sont plutôt ceux qui ont la force de se défendre contre toute agression, qui accordent à leurs citoyens des conditions minimales de vie. Actuellement, que le FARDC semble prendre les décisions sur les M23, il faudrait continuer à les traquer jusqu'à les mettre hors du périmètre national. Ce n'est qu'après cela que tous les Congolais pourraient se réunir pour voir comment développer les pays sur tous les plans et dans tous les secteurs.
Alors, comment vous réagissez à cet auditeur qui estime qu'il faudra continuer avec l'option militaire jusqu'à bouter l'ennemi hors du territoire national, alors qu'on a suivi le prof ici qui disait qu'il faut faire venir ces groupes armés ici pour les concertations puisqu'ils sont congolais?
Le M23 a constitué un vrai casse-tête pour le gouvernement congolais, et je me souviens que parmi les solutions proposées, une palette de 3 options a été présentée sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. C'était donc une triple stratégie combinée. C'est vrai que, naturellement, tout Congolais aurait aimé que le M23 soit bouté du territoire depuis hier. Nous aurions aimé que ce ne soit qu'un mauvais rêve, une ancienne histoire. Mais la réalité est celle du terrain. Aujourd'hui, notre armée a démontré qu'elle a des ressources, qu'elle est capable d'atteindre les objectifs qu'on lui ignorait jusque-là. C'est vrai aussi que la communauté internationale s'est engagée dans le sens d'appuyer notre pays en éradiquant ses forces. Et puis, il faut savoir, sur le plan international, dès lors qu'on parle de solutions diplomatiques, pour le commun de mortels, parfois cela semble irrationnel. Cela semble disproportionné. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'équivoque que tout Congolais cherche à voir lever, savoir, mais tantôt on veut éradiquer un groupe armé, et tantôt, en même temps, on veut aussi négocier et dialoguer. Ce sont là les couloirs des relations internationales, ce sont là les réalités des dynamiques internationales. Vous savez que le M23 n'est pas fort simplement parce qu'il est M23. Il a aussi des appuis extérieurs. Cela implique des dialogues dans la sous-région. Cela se fait dans un contexte, celui de la CIRGL. Et je rappelle au passage que le dialogue de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23 est une émanation de cette CIRGL. Et on a souvent tendance, je trouve assez malheureusement, à opérer une espèce de confusion entre un dialogue qui a été proposé auparavant par le chef de l'État avant même la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba et le contenu de l'accord du 24 février 2013, qui, dès lors qu'ils concernent les obligations ou les charges imposées ou inhérentes à la RDC, parlent entre autres d'un dialogue constructif au niveau national. Et je pense que il est important de comprendre que aussi longtemps que nous conserverons ces trois solutions combinées, eh bien, on augmente les chances de pouvoir obtenir un résultat palpable.
Alors, Samuel Monga, on se retrouve là devant un cocktail compliqué. On a les concertations nationales, on a Kampala, on a la CIRGL. Finalement, quelle serait la voie de sortie?
Bon, je crois, la première des choses, il faut surtout éviter le mélange. Moi, je crois que le dialogue national, dans son format actuel, est issu d'un acte juridique clair qui est l'ordonnance présidentielle. Le dialogue de Kampala est une émanation de la CIRGL. Et puis, entre-temps, l'accord cadre d'Addis Abeba est passé par là. Le tout s'entrecroise dans une période de temps donnée. Et c'est vrai que, de prime abord, on a l'impression qu'il y a une forme de... comme ça. Mais je crois que... c'est vrai, on sent ce besoin, hein, ces frustrations de voir la situation de l'Est se régler au plus vite. Personnellement, je comprendrais que certaines couches de notre population admettent difficilement que des groupes armés qui ont contribué à des violations massives du droit international humanitaire, à la déshumanisation d'une partie de notre population, prennent part à un dialogue dont l'objectif et de sauver notre nation. Ça paraît a priori assez paradoxal et je peux comprendre d'une certaine manière.
Merci Samuel Monga. Monsieur le gouverneur, je me repose la même question. Quelle serait la voie de sortie? Les concertations nationales, le dialogue de Kampala ou les sommets des chefs d'État pour résoudre cette crise du Nord Kivu?
Non, je pense que le Conseil de sécurité a déjà levé l'option par la résolution 2098. Si vous connaissez le fonctionnement de l'organisation internationale, l'ONU a une expérience beaucoup plus grande que la CIRGL, qui n'est qu'une organisation régionale. Et je ne vois pas une organisation régionale en train de marcher sur une décision de l'ONU. Donc je crois que l'ONU a tracé la voie à suivre. Aujourd'hui, elle a déployé les contingents tanzaniens, sud-africains et bientôt les contingents malawites. Je crois que c'est pas pour rien que l'ONU a estimé qu'il faut la voie de la force, parce qu'elle a trouvé qu'il y a finalement beaucoup de populations qui souffrent inutilement, alors qu'on peut mettre fin à cette crise. Et je crois à cela, on associe la démarche de Kampala, parce que la démarche de Kampala a pour mérite d'éviter l'escalade dans la région des Grands Lacs, comme j'ai eu à le démontrer tout à l'heure.
Rien il faut qu'on appelle le gouverneur
dans le sommet des chefs d'État, mais ça n'empêche pas qu'au niveau national, il y ait également des concertations qui regroupent les filles et les fils du pays pour
Merci.
Qu'ensemble nous puissions d'abord nous souder les coudes face aux problèmes qui nous guettent tous. Voilà
Merci.
Pourquoi tous les schémas doivent être explorés selon les dimensions que je viens de définir.
Merci, monsieur le gouverneur. Je considère cela aussi comme votre conclusion, professeur Arsène Mouaka. Tous les schémas doivent être explorés pour mettre fin à cette crise.
Oui, je n'exclus pas tous les schémas, mais je sais que quand on se retrouve devant des urgences, il faut savoir trouver les plus prioritaires. Et donc, je semble croire que nous sommes sur le terrain de bataille. Il n'est pas question de continuer à travailler comme les ONG, faire des dénonciations, raconter des histoires. Je crois que maintenant, il faut que la puissance publique s'exprime. Et il faut que l'État congolais se fasse respecter et que l'État puisse essayer d'arrêter la durée de l'humiliation du peuple congolais. Et je semble croire que tout le reste suivra, puisqu'on est en politique, on devra absolument dialoguer, et si c'est pas à Kampala, ça pourra se faire à Kinshasa. Je crois que ceux qui sont congolais viendront ici.
Merci, professeur. Monsieur Monga, un mot en guise de conclusion.
Écoutez, mes regards se portent essentiellement sur la mise en application de la résolution 2098. Il me semble que le comportement de cette brigade d'intervention, couplée à nos forces armées, sur le terrain, concrètement, pourrait avoir une influence réelle sur la suite des événements. Et je pense que tout le monde comprend aisément qu'une victoire militaire eh bien, renvoie au second plan toutes les autres options.
Merci beaucoup Samuel Munga, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci Alain Rung, assisté de Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Sebourjangwe, qui m'ont aidé à préparer et réaliser cette émission. Merci à Héritier Sidiakala qui est à la mise en onde de micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.